l'une des personnes qui trouve que Jésus est devenu notre frère, qui est devenu notre frère, que nous sommes auprès du Père accueillis. En fait, je peux dire à tous ce matin, je vous aime. Je vous appelle pour venir en Jésus. Nous allons reprendre notre étude de la lettre envoyée aux Galates il y a à peu près 2000 ans. Okay? Galates se trouve dans le Nouveau Testament. Après les quatre évangiles, et après Actes, qui est un peu l'histoire de l'Église naissante. Et ensuite, on a les lettres de Paul, Romains 1 et 2 Corinthiens, et après on a trois lettres. Voilà, d'accord. Voilà. Et on va recommencer en chapitre 3, mais on va faire une petite rappel, d'accord, un petit rappel. Aujourd'hui, on va parler de la promesse d'un héritage. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui attend un héritage riche, énorme. Non, mais ceux qui sont en Christ ont un héritage promis. Avant d'arriver au chapitre 3, juste un rappel. En Galates, on a une introduction qui est chaude, hein? Très chaude. On peut dire que Paul n'est pas content, pas du tout. D'accord? Même quand il a écrit sa lettre aux Corinthiens, il a dit, je vois que Dieu vous a béni, je rends grâce pour vous, mais au Galates, il dit, non, en fait, je m'étonne que vous vous détourniez aussi vite, aussi rapidement de l'Évangile. Non, il y a un problème. Il termine cette première partie en disant, si un ange, si moi, si on prêche quelque chose d'autre que l'Évangile que je vous ai prêché, il soit anathème. D'accord? Envoyé en enfer. Condamné. D'accord? Deuxième partie, c'est l'histoire. Mais pourquoi? Vous ne pensez pas, moi je vais vous partager un peu de mon histoire. Non. Il y a un but spécifique pour établir que l'évangile de Paul est en fait l'évangile de Dieu et il n'est pas soumis aux apôtres à Jérusalem pour avoir son évangile. Non, il a reçu son évangile directement de Jésus par une révélation. Une deuxième partie historique, il parle de Pierre et son histoire avec Pierre, un peu fameux, hein. Ici, pour introduire le sujet de la justification par la foi. C'est-à-dire, comment on peut être, jugé d'être juste devant Dieu? Est-ce que c'est par notre propre mérite ou seulement par le mérite de Jésus-Christ? On obtient par la foi. Ça, c'est cette partie-là. Et à partir du chapitre 3, il fait appel à l'expérience des des personnes de Galatie. Et on va lire maintenant chapitre 3, d'accord? Juste pour qu'on soit dans le train de pensée de ce qu'il veut dire au verset 15 à 18. Et on peut noter qu'il recommence un peu chaud ici, hein? Il ne dit pas, vous pouvez dire comment je pense, comment je me sens si quelqu'un m'adresse dépourvu du sang. Ah oui, merci, mais non. Mais ça, c'est comment il va dire. Au Galate, ça c'est Galate chapitre 3. Au Galate, dépourvu de sang, qui vous a fasciné, hein? Vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi, et je vais mettre certaines choses en avance ici, en avant pour que vous voyez le contraste. Œuvre, loi, prédication, foi. Êtes-vous tellement dépourvu de sang? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Loi, foi. Il continue. Maintenant, il va parler de qui? D'Abraham. Et on va voir pourquoi. Mais comme Abraham crut à Dieu et que celui put imputer la justice, à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Il faut poser la question, pourquoi il parle d'Abraham ici? Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens, les non-juifs, les personnes qui ne viennent pas du milieu d'Abraham, par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Promesse. Toutes les nations seront bénies en toi, pas qu'une seule. Ainsi, conclusion, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Beaucoup d'accent mis sur quoi? La foi, et pas sur la loi. Continue. Car, je m'explique, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, qui est le contraire de la bénédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. C'est 100% ou rien. Et ne le met pas en pratique. Que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction, on revient à cette idée, Abraham et bénédiction. D'Abraham et pour les païens, les non-juifs comme nous, son accomplissement en qui? En Jésus-Christ. Et que nous recevions par la foi, quoi? L'Esprit qui avait été promis. Juste un petit commentaire ici. Aujourd'hui, on parle beaucoup des bénédictions d'Abraham et on met l'accent sur ce qu'on peut toucher. L'argent, les vêtements, salaire important, une maison, un terrain. Parce que nous sommes bénis en Abraham. Et Dieu a promis à Abraham beaucoup de choses. Mais comme Paul dit, nous sommes bénis, nous recevions par la foi, quoi? L'Esprit. Donc, la bénédiction pour les païens, pour les juifs, en Jésus-Christ, c'est d'avoir l'Esprit de Christ en nous. Et aujourd'hui, d'accord? Mais est-ce que vous notez un petit changement ici? Comment il a commencé au chapitre 3? Dépourvu de... Maintenant, il dit frère. Donc, il n'est pas très fâché, il n'a pas oublié qu'ils sont des frères. Hein? Il a toujours la tendresse dans son cœur, c'est juste, il faut l'attention, hein? Pour l'attention. Frères et sœurs, je parle à la manière des uns. D'accord? Il va vous donner un exemple humain. Un testament, une alliance plutôt, je pense, en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Hein? Alors les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances plurielles, comme il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament, une alliance que Dieu a confirmée entièrement ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Alors, qu'est-ce qu'on doit prendre de ces paroles qui viennent directement de Dieu pour nous? On va considérer en trois points la priorité de la promesse, l'accomplissement de la promesse et la participation à la promesse. Alors, on va parler autour de la promesse, priorité, l'accomplissement et la participation. Vous allez voir ces trois points après, ok? D'abord, quand on parle de la priorité de la promesse, on veut dire quoi? On veut parler de la priorité qui est liée à une alliance qui est immuable. Est-ce qu'on sait ce qui est immuable? Qui ne peut pas changer, ok? Peut pas changer. Et il utilise ici l'exemple humain, c'est-à-dire, si on signe un CDI, d'accord? Ça, c'est ce que nous voulons tous, n'est-ce pas, en France. Une fois qu'on a un CDI, on peut avoir un appartement et tous. Hein? On arrête le CDI, on signe, et si, 3 mois après, on note dans nos bulletins de salaire un changement, mais pas pour le bien, hein, c'est moins. Et on note, en fait, c'est 200 euros moins ce mois-là. On va aller à les ressources humaines, on va dire, qu'est-ce qui arrive? Je note une erreur, je sais que vous allez changer tout de suite. Elle dit, non, non, en fait, on a changé le contrat. Ah bon? Ah oui, on pensait que, en fait, pour nous, c'est mieux, on va changer le contrat. On a fait un nouveau contrat sans te dire, c'est vrai, mais c'est pas grave, on l'a changé. Est-ce que vous allez dire, ah d'accord, je vois comment ça marche. Non, vous allez dire quoi? Non, on a signé. On a un contrat, il y a une alliance contractée entre nous. Ça, c'est ce qu'il veut dire. Et c'est inchangeable, immuable, et pourquoi? Parce que l'alliance a été arrêtée par Dieu lui-même. D'accord? Et vous pouvez voir, hein, d'accord? Hébreux chapitre 6, je pense que c'est un passage important. Vous pouvez noter dans vos Bibles. Hébreux, c'est après les lettres de Paul, qu'on sait qui vient de Paul. Il se peut que Paul a écrit cette lettre aussi, mais pas très sûr. Le verset 13 à 18. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, d'accord, on est dans le même contexte, n'est-ce pas? Même contexte? Oui. Promesse? Abraham. Ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Nous pouvons, si on est un peu profond, on dit, ah oui, je jure par Dieu. Hein. On met dans le passé aux États-Unis, au moins, on a mis la main sur la Bible. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Oui, je jure sur ma gueule. Non, c'est rien. Mais lui, il est le plus grand, le plus juste. Il jura par lui-même et dit, certainement, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce que lui avait été promis. Or les hommes jouent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immuabilité de sa résolution, il a pris des résolutions et ça ne va pas changer, intervint par un serment afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Est-ce que vous voyez? Une alliance arrêtée par Dieu lui-même et il ne peut pas changer. Il a juré par lui-même. Donc, si la promesse change, cela veut dire que Dieu a changé. Et si Dieu change, cela veut dire qu'il n'est plus Dieu. C'est pas possible. Ok? Il argumente a fortiori, cela veut dire qu'il prie quelque chose qui n'est pas très fort pour dire si c'est vrai ici, c'est vrai quand il est plus fort. Okay? Et je note juste que cette alliance n'avait pas de clause suspensive. C'est quelque chose que j'ai appris dans l'achat d'une maison. Hein? Des clauses suspensives. Mais Dieu n'a pas dit si. Donc, il a dit non, je fais. C'est fini. Pas de clause suspensive qui décrit la promesse. D'accord? On continue. Il y a une priorité qui est liée au timing de l'alliance. Bon, il cite soit Genèse 13, 15 ou 17, 8. Et pourquoi on dit? Parce que ça doit être dit directement à Abraham. C'est clair. Et la citation, si vous êtes en Galates, vous pouvez voir, la citation inclut le mot « et ». D'accord ? Le verset 16. « Et aux descendances. Et à ta descendance. » Et quand nous cherchons cette citation directe, exacte, donnée directement à Abraham, ça vient de Genèse 13, 15 ou 17, 8, qui est bien beaucoup, beaucoup, beaucoup avant l'alliance mosaïque avec Moïse. Pourquoi ça? Pourquoi il faut savoir toutes ces choses? Dans le contexte de Galates, il y avait des personnes qui sont venues et ils n'ont pas dit non, c'est pas Jésus-Christ. Ils ont dit oui, c'est Jésus. Mais c'est Jésus, et après, il faut se soumettre à la loi de Moïse pour être vraiment dans l'association. Hein. Il faut, même si vous n'êtes pas juif, d'accord, Michael, tu n'es pas juif. Tu crois au Jésus, c'est bon, mais ça ne suffit pas. Maintenant, il faut que tu, Michael, non-juif, vive comme un juif. D'accord? Pour que Dieu soit vraiment content et que tu sois justifié devant Dieu. Et Paul dit non, mille fois non. Parce que la promesse à Abraham, c'est avant l'alliance mosaïque. Et nous ne faisons pas partie de l'alliance mosaïque, non. Nous faisons de la promesse d'Abraham. Par la foi. Et si, Michael, tu entres en dessous de la loi, tu te trouves en conflit avec la foi. Est-ce que vous voyez ce qu'il veut dire? Quand on parle de la promesse a priorité sur la loi de Moïse. Timing, mais aussi le fait que ça, c'est pas changeable. La loi de Moïse a été donnée à une nation, un peuple spécifique. Ça peut changer. Mais la promesse, non. Ça, c'est la priorité. Comment cette promesse a été accomplie? D'accord? Et pour nous, ça, c'est une question. Est-ce que c'est quand Israël, la nation, a son propre territoire? Un état géopolitique et la paix? Qu'est-ce qu'il dit? L'affirmation de Paul, la promesse s'accomplit dans un descendant particulier. Est-ce que vous avez noté? D'accord? Il veut parler de la grammaire.
n'est pas dit le verset 16, et aux descendances avec un S, pluriel, c'est-à-dire comme il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule et ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Alors, on veut noter d'abord, oui, ici on a le singulier qui peut s'utiliser dans un sens collectif comme équipe. Hein. On dit l'équipe, on ne dit pas l'équipe sont arrivés. Si l'équipe a un S. L'équipe est arrivée, mais nous savons que l'équipe signifie qu'il y a plusieurs personnes, n'est-ce pas? Collectif. Paul savait qu'en hébreu, en grec, même en anglais, le mot descendance est au singulier, mais au sens collectif. Qu'est-ce qu'il veut faire ici? Est-ce qu'il joue un jeu de mots, hein? Non. Non. Qu'est-ce qu'il veut souligner? D'accord? On a le contexte historique. Et on trouve ce contexte même dans cette lettre, Galates 4. Est-ce que vous pouvez regarder Galates 4, 22? Car il est écrit qu'Abraham eut combien de fils? Deux. D'accord? Deux fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Alors on a le contexte ici. Contexte historique, on a un descendant particulier. La promesse ne se trouve pas en Ismaël. La promesse est donnée à qui? Isaac. Déjà, on a une distinction, un choix de Dieu qui a dit non, tu as deux, et après on trouve qu'il a plusieurs enfants. C'est un seul ligne qui va recevoir la promesse. C'est qui? Isaac. La descendance qui se trouve dans une personne, un descendant particulier. OK? Mais est-ce qu'on dit que, d'accord, l'accomplissement, c'est en Isaac? Ou peut-être après Isaac, en Jacob, parce que Jacob est choisi au lieu des Esaü. Et parmi tous les enfants d'Israël, Jacob, on voit un choix aussi de Judas pour que le Messie vienne parmi. David, choisi parmi tous les autres qui viennent de Judas, et Salomon, parmi tous les enfants de David. On a ce choix. Le contexte historique nous dit que quand Paul fait cette affirmation, il veut dire oui. Un descendant particulier, c'est choisi parmi les enfants d'Abraham, c'est pas Esaü, c'est Ismaël, c'est Isaac. Mais parmi tous ceux qui viennent d'Isaac, c'est en Christ. Okay? On a une progression ici. Galates 3, 16, il parle de descendance. Galates 3, le verset 19. Qu'est-ce qu'il dit ici? Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne quoi? Est-ce que vous avez vos Bibles devant vous? Oui, non, c'est juste pour que vous sachiez que je ne mens pas. Hein? D'accord? Le verset 19. Jusqu'à ce que vienne la descendance. Il a soulevé ici l'idée de descendance. Il dit qu'il n'y a qu'un seul, en fait. Mais nous disons, il y a beaucoup. Mais la loi est venue parce qu'on attend la venue de la descendance. Ah, c'est qui ici? Et on continue au verset 29, dans le même chapitre. Il termine cette argumentation et dit, et si vous, d'accord, il parle de plusieurs personnes, vous êtes à Christ, vous êtes donc la foi. Descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Et on dit, attends, Paul, hein? Tu as dit qu'il n'y a qu'un seul descendance. Mais maintenant, tu nous parles que nous sommes tous descendance. Comment il peut faire ça? Il peut faire parce qu'il parle de l'union avec Christ. Parce que vous avez vu, et si vous êtes à Christ, en Christ, par la foi, il y a une union entre chaque croyant, chaque croyante est Jésus-Christ. On a parlé vêtu de Christ. Et ce qu'il veut dire ici, c'est oui, Christ, il est la descendance. D'accord? Il est la personne, un descendant particulier, c'est Christ. Et tous ceux qui se trouvent en lui qui font partie de cette descendance. On a un mot. Et qui reçoit la promesse. Qu'est-ce qu'on veut dire ici, d'accord? La promesse n'est pas pour vous si vous n'êtes pas lié à Jésus-Christ, par la foi. C'est clair. La promesse va avec Jésus. Et la promesse ne peut pas être appliquée à moi. Cela veut dire que je ne peux pas participer à la promesse si je n'ai rien à faire avec Jésus. Mais si vous êtes lié à Jésus-Christ, la promesse est pour vous. L'héritage. On va parler maintenant de la participation. Le contenu, c'est quoi? On va juste relire ce qu'on a déjà lu, mais je trouve que c'est important de souligner le fait qu'on n'attend pas un héritage d'argent. D'accord? Un chèque qui arrive par le mail, le poste, un terrain qui nous attend. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Et on saute un petit peu pour arriver au verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Le contenu de cette promesse, c'est la relation intime avec Dieu, la réconciliation. Plus de barrières entre nous et le Dieu créateur. Et cette relation est tellement intime que Dieu dit que j'envoie mon esprit et il demeure en vous. Dieu n'est pas loin. Dieu ne réside pas ici dans cette salle ni dans les autres bâtiments en France, aux États-Unis. Dans toutes les nations du monde. Si, par la foi, vous êtes en Christ, Dieu habite en vous. Vous n'êtes pas obligé de venir 5 heures le matin ici pour prier pour que Dieu soit avec nous toute la journée. Hein. Déjà là, dans nos maisons. Si on réfléchit sur ça, quel privilège. Ça, c'est le contenu. Quel est l'obstacle à la promesse? D'accord? Cette lettre est une lettre écrite parce qu'il y avait des problèmes. Il y a des obstacles pour participer à la promesse. Adhérence à un principe autre que du Christ. On veut quelque chose plus que Jésus-Christ. C'est tout. Ça, c'est le problème dans le noyau. On peut dire que c'est la confiance en le comportement méritoire. Moi, je suis bien. je fais ce qu'il faut, ou les petites erreurs, les petites fautes, mais c'est pas grave. Dieu doit m'accepter dans l'avenir parce que je suis un homme, une femme de bien. Et ça, c'est un obstacle. Si ça, c'est votre façon de penser, vous n'allez pas obtenir l'héritage, la promesse. Parce que vous dites, si oui, peut-être que Jésus plus un petit peu, hein, de mes efforts à moi. Ça, c'est le côté personnel. Mais il y a cette idée qui se trouve dans les structures aussi. C'est pourquoi j'ai dit l'adhérence à un système média. C'est quoi média, d'accord? Qui repose sur une relation établie entre deux termes par l'intermédiaire d'un troisième. Bon, ça n'éclaire rien. Voilà. J'ai trouvé sur un dictionnaire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on a Dieu, on a l'homme, et entre ces deux, il faut un système pour nous permettre de passer d'ici jusqu'ici. Et on peut mettre ici l'Église. Ça, c'est ce qu'a fait l'Église catholique romaine. Ou l'Église catholique, mais orthodoxe. Oui, vous pouvez avoir une relation avec Dieu si vous passez par le système. Il faut les saints. On ne peut pas embêter Jésus, non. Il faut prier par les autres. Peut-être Marie, hein, elle est là, elle dit Jésus, hein, il veut te parler. On a tous les rangs des saints. Peut-être, non, on ne fait pas partie de ça, mais on peut même penser ça aujourd'hui, oui. Oui, j'assiste à l'église. Hein. Je fais assez bien. Je donne un peu d'argent de temps en temps. Je dois être. Moi, je suis dans l'église. Hein. Peut-être les enfants, vous avez dans vos têtes. Je fais partie d'une famille chrétienne. Je suis OK. Non, parce que vous avez mis entre vous et Dieu un système, adhérence à un principe autre que du Christ, ma famille, parfois ma nation. Je raconte comment j'étais vraiment choqué une fois, j'écoutais la radio aux États-Unis, un Français qui parlait du fait que je suis chrétien. Par tradition, nous sommes chrétiens. Il ne croit rien. Il ne pratique rien, mais sa nation, c'est chrétienne. On met quelque chose. Et on peut faire pour beaucoup de choses, hein, un système de comment il faut agir, se comporter. Hein. Ah oui, je fais A, B, C, D, E, Dieu est content. Jésus. Et Jésus seul. C'est pourquoi cette église doit être une église centrée sur Jésus, crucifié, ressuscité, monté au ciel, qui revient pour nous prendre. Et on annonce cette bonne nouvelle. Juif, non-juif, femme, homme, intelligent, moins intelligent, riche, non-riche, Jésus. Ça, c'est tout. D'accord? Attention qu'on ne mette pas la confiance dans le comportement ou dans un système média. La participation à la promesse s'effectue uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est incroyable. Le Dieu de l'univers n'exige pas qu'on se change et qu'on arrive à un certain niveau avant qu'ils disent « D'accord, hein, je pense que maintenant je peux t'aimer, Michael. Tu as travaillé pendant 25 ans, pas très grand chose, mais bon, je vois un petit peu. » Non, il dit « Michael, lorsque tu étais mon ennemi, hein, je t'aimais, j'ai envoyé mon fils. Et je t'appelle de venir maintenant comme tu es. » En Jésus-Christ. Et la peine pour chacun ici, c'est pas maintenant avec le nouvel an, 20-20, je vais me changer, je vais devenir mieux. Hein? Et après, Dieu va m'aimer. Non. Ce qu'il faut faire, c'est mettre la foi en Jésus-Christ. Et l'encouragement pour ceux qui sont venus ici et vous êtes déjà en Christ. Vous savez de quoi je parle. L'encouragement pour vous, c'est quoi? Vous êtes des participants à la promesse. Vous dites, moi, maintenant, Michael, j'ai pas grand-chose. Hein. En fait, ce que j'ai, c'est trouble en sur-trouble. Hein. D'accord. C'est un peu la vie ici. Mais maintenant, c'est pas la réalité. La vie qui est réelle, qui compte, vient avec Jésus. Et l'héritage, c'est là. Personne ne peut toucher. Personne ne peut toucher cet héritage. C'est pourquoi on veut louer Jésus-Christ. On veut dire à Jésus-Christ, c'est toi seul. J'ai besoin de rien d'autre. Et ça, c'est l'appel aujourd'hui. Si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, venez à Jésus. Si vous êtes en jeûne, en Jésus-Christ, venez à nouveau. Restez en Jésus-Christ. On va prendre juste deux moments de silence, d'accord? Pour que vous tous puissiez encore vos cœurs parler à Dieu. Remercier le Seigneur. Et après, je vais terminer par une prière. Jésus est là. Qu'il soit glorifié.